France Inter.
Les bandes rivales, les jeunes qui s'agressent partout là, dans les quartiers, ça fait peur. Moi, quand je les vois arriver, je me sauve. Hein. Surtout quand ils sont habillés en noir avec leurs battes là. Oh là 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 là.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, une heure pour comprendre un phénomène de société. Et aujourd'hui, zoom sur un phénomène qui fait de plus en plus souvent la une des journaux, alors qu'il existe, on va le voir, depuis la nuit des temps, les bandes rivales. Notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière, qui fut le leader des blousons noirs de Ponto Combo dans les années 80, était très remonté en conférence de rédaction sur le thème « Oui, nous, on aimait la castagne, se filait des châtaignes, mais on avait un code d'honneur, on butait pas un mec pour rien, les jeunes aujourd'hui sont devenus complètement maboules. » Alors, Cyril et sa chaîne de cœur, CNews, ont-ils raison? Les bandes rivales, est-ce que c'était vraiment mieux que ça avant? Ceux qui dénoncent l'ensauvagement de notre société n'auraient-ils pas au fond un petit peu raison? Est-ce qu'on se voile la face en se disant que la violence entre quartiers a toujours existé? Et au-delà de savoir si c'était pire ou mieux avant, comment on traite aujourd'hui ce problème de société? Eh bien, finalement, le temps qu'on prépare cette émission, la réponse à cette dernière question est tombée. Je ne sais même pas si c'est vraiment encore utile de faire une émission, sachant que Gabriel Attal, notre Premier ministre, a trouvé la solution.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Alors ça, c'était pour les grandes lignes. Hein. La semaine dernière, il est entré dans le détail. Fini de rire, les chiards. Le collège, ce sera maintenant tous les jours de 8h à 18h. Visiblement, plus de problèmes de profs absents. Et celui qui déconne, paf, ça sera mentionné dans son dossier Parcoursup pour s'initier en douceur, dès 11 ans, au principe du casier judiciaire. Alors, je peux vous dire une bonne chose, les bandes rivales, elles existent peut-être depuis plus de 2000 ans. Il y avait peut-être déjà des bandes rivales dans la Rome antique, mais là, avec ces mesures drastiques, c'est fini. Bon, dans le doute, on va quand même faire une petite émission, mais je suis quand même confiant. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Marwan Mohamed.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Marwan, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Vos travaux portent principalement sur les jeunesses populaires et les différentes sortes de délinquance. Et vous êtes l'auteur de « Y'a embrouille, sociologie des rivalités de quartier » publié l'an dernier chez Stock. Alors Marwan Mohamed, vous allez nous décrypter la mécanique de ces bandes rivales et pourquoi c'est dur d'en sortir. Juste le temps de vous présenter deux journalistes qui sont un peu comme Tony et Maria dans West Side Story. Sauf qu'eux, ce qui les sépare, c'est pas un quartier, c'est bien plus large que ça. Ça s'appelle le snobisme. En l'occurrence, celui de Manon Mariani, parisienne pur jus, qui ne pourra jamais se résoudre à faire entrer totalement Quentin dans sa vie. Il y aura toujours entre eux une distance liée essentiellement au fait que lorsque Quentin a débarqué à Paris, il ne savait pas ce qu'était un Hugo Spritz. Le genre de détail qu'une vraie parisienne ne peut pas tolérer chez un homme et fait qu'elle le classe immédiatement, parfois même inconsciemment, dans la catégorie mec sympa mais qui vient de Saint-Etienne ou ville moyenne équivalente. Intuition qui s'était vérifiée quand elle avait demandé à Quentin d'où il venait et qu'il avait fait un strike en annonçant fièrement avec cette candeur qu'on ne retrouve que chez les authentiques provinciaux. Je cite « Oh, bah moi, je viens de France Bleue et j'ai grandi à Alençon dans l'Orne. » Le voyant « Friendzone Forever » s'était allumé dans la tête de Manon qui lui avait dit « Ah, c'est pour ça que tu sens l'agriculture. »
Oui, c'est vrai.
Phrase authentique.
Ça, c'est
Manon
vrai.
Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. J'avais dit ça quand même quand il revenait du salon de l'agriculture.
Oui, vrai,
je ne me serais pas permise.
Et puis quand je suis arrivé à Paris, je roulais sur les voies de bus. Ça, c'est la vraie histoire. Je savais pas qu'il y avait des voies de bus, donc on m'a dit tu te déplaces très très vite dans Paris. Non, c'est vrai.
Je vais casser votre effet comique parce que c'est drôle ce que vous venez de dire, mais j'ai fait la même chose quand je suis arrivé. Je me suis retrouvé dans les voies de bus et les flics m'ont klaxonné.
Beaucoup plus
vite. Compris. Manon, avec le temps, vous êtes fait à cette odeur champêtre que Quentin fait flotter dans notre studio. Et chaque après-midi,
vite fait quand même.
Vous nous décryptez ce qui se passe sur les réseaux sociaux au programme de votre veille sanitaire.
Eh bien, Twitch veut se TikTokiser. La plateforme de vidéos qui cartonne veut attirer un nouveau public en proposant une interface plus proche de l'application chinoise. Sur le papier, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Je vous explique pourquoi dans ma veille sanitaire.
Quentin, vous êtes notre enquêteur de terrain, c'est en tout cas comme ça que vous souhaitez contractuellement qu'on vous présente. Chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour.
Et le 12 mars dernier, un jeune homme de 18 ans a été tué de plusieurs coups de couteau rue Évangile à quelques centaines de mètres de la porte de la chapelle. Je suis passé discuter avec les vieux, les jeunes et les simples passants de ce quartier. Un micro-trottoir complètement à la rue dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, on remontera le temps pour découvrir que les bandes rivales, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Mais qui de Manon ou Quentin connaît le mieux la sociologie des blousons noirs et des apaches de Ménilmontant? Réponse dans le Zoom Zoom Test. En fin d'émission, lui aussi à la gâchette facile, Benjamin Tranier nous rejoindra pour nous dire si le SPG, le fameux sans prépuce gang, peut être considéré ou pas comme une bande. Mais d'abord, Marwan Mohamed, vous avez grandi à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Banlieue chaude, tiède, fraîche?
Banlieue chaleureuse.
Chaleureuse.
Ouais. Banlieue chaleureuse, banlieue avec ses problématiques, mais banlieue chaleureuse avant tout. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu en arrivant de Paris. Moi, je suis arrivé à 13 ans.
D'accord.
De Paris, j'habitais le centre de Paris, plutôt le centre bourgeois. Ma mère était concierge. Mmh. Donc pour moi, ça a été un vrai voyage social en tant que tel, parce que c'était pas du tout la même réalité. Mais dans le centre de Paris, quelque chose qui me fascinait déjà, c'était la question des bandes, des grandes bandes parisiennes, de qui tient le Forum des Halles, qui tient la Gare du Nord. Et donc, c'est pas quelque chose qui était absent de mon quotidien.
C'est quelque chose que vous avez vécu, voilà, ça vous a donné envie de l'étudier.
Oui, oui, oui. Souvent, on va étudier on va essayer de répondre à des questions qu'on se posait plutôt dans sa vie. Mais oui, oui, je veux dire, petit, moi, 9, 10 ans, j'allais au Halles regarder les bandes, j'étais un peu fasciné, un peu apeuré, je regardais un petit peu ce qui se passait, je suivais un peu toute cette actualité. Et en arrivant à Villiers-sur-Marne, ben, en fait, une des premières choses qu'on m'a dit, j'étais au lycée à Fontenay-sous-Bois, on m'a dit, ça va Fontenay, mais ne va surtout pas au lycée à Champigny parce que tu pourras pas te déplacer. Pourquoi? À cause des rivalités entre Villiers-sur-Marne et Champigny. Wow. Donc la première des choses dont on nous parle, c'est de nous donner un peu la cartographie des rivalités entre quartiers.
En bout de table, la dernière bande à laquelle il a appartenu, les Hells Angels de Ponto Combo, l'a radié le jour où il a acheté ce scooter électrique chinois qui ressemblait à un Ferrari repassé.
Vendu, revendu.
Il a essayé de leur expliquer que c'était quand même plus écologique qu'une Harley, ils lui ont cassé la gueule. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Qu'il était moche ce scooter.
Il était horrible. C'est
de l'histoire. Ce truc a été revendu.
Enfin, le nouveau est énorme quand même.
Cyril, vous êtes penché évidemment sur notre notion du jour. Dites-nous, les bandes rivales, d'où ça sort?
La cultissime comédie musicale West Side Story. Alors, je ne vous ai pas fait l'injure de vous passer l'inutile remake de Steven Spielberg, mais bien la version originale de 1961, qui elle-même est l'adaptation d'une pièce jouée à Broadway depuis 1957. Le film compte 10 Oscars à son palmarès, et c'est un classique du cinéma quand on veut parler justement de bandes rivales. D'un côté les Jets, de l'autre les Sharks, les Blancs contre les Latinos, et au milieu, bien sûr, l'histoire d'amour entre Tony et Maria. West Side Story, c'est une musique de Leonard Bernstein, une partition qui va marquer la carrière du compositeur au point qu'il finisse par en avoir marre, qu'on lui rappelle systématiquement. En France, un an plus tard, c'est moins d'encens, moins de love aussi, mais aussi une certaine vision des bandes rivales.
Mais que va-t-on lui couper?
Les oreilles, la langue, bizizi.
La guerre des boutons de Yves Robert, lui, il a eu le droit à deux remakes, l'enfer des remakes. Dans la guerre des boutons, ce sont des gamins qui s'affrontent et coupent les boutons de leurs prisonniers. Ce ne sont que deux exemples, bien sûr, mais les bagarres entre bandes, ce n'est pas ce qui manque au cinéma. Une manière de vous dire que la baston entre bandes, ça existe depuis toujours, ou presque, parce que on n'a pas les mêmes origines, parce qu'on ne vient pas du même quartier, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Parfois, on ne sait même plus pourquoi on se bagarre entre bandes. La préfecture de Paris a mis sur pied la cellule bande pour surveiller les bandes, justement. Elle remonte à 2010 et l'an dernier, il y en avait 45 sous surveillance. Alors, est-ce que ces bandes sont vraiment dangereuses? Est-ce qu'une cellule bande, ça sert à R ou c'est utile? Comment réconcilier les bandes? Est-ce que les embrouilles sont plus nombreuses, plus violentes qu'avant? Est-ce qu'on joue parfois aussi à se faire peur? Comment apaiser les tensions? C'est ce qu'on va voir durant une heure pour que vous riez quant à lui.
Ça sert à R. Drame du quinca qui tente de faire jeune.
Ouais, c'est clair.
Merci Cyril Lacarrière. Marwan Mohamed, on va crever l'abcès d'emblée dans cette émission, parce que c'est vrai que dans l'actu on parle beaucoup de bandes rivales, certaines chaînes ont l'air de découvrir que ça existe, c'est un phénomène qui est vieux comme le monde. Est-ce que y a une forme de radicalisation de ces bandes aujourd'hui dans la violence ou pas?
Une radicalisation de notre intolérance à leur violence. Ça, pense que c'est quelque chose qui est très, très marqué. On ne supporte plus. C'est des comportements qui sont montés en épingle et qu'une partie de la population croissante ne veut plus expérimenter, voisiner. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont beaucoup plus violentes aujourd'hui. Pour dire que c'est plus violent, alors d'abord la notion de plus violent, les jeunes plus jeunes et plus violents, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est une dénonciation qu'on retrouve depuis la moitié du 19e siècle, chez les décideurs publics, chez les pouvoirs publics. Donc si on suivait cette logique-là depuis la moitié du 19e siècle, si les choses étaient de plus en plus violentes, aujourd'hui les affrontements entre gangs seraient des affrontements entre crèches. Suivant cette logique-là, non mais vraiment.
Oui.
Et les choses se sont répétées tout au long du XXe siècle. Donc il y a eu des variations, il y a eu des moments où ça s'est calmé, des moments où c'est reparti. En termes de violence, qui peut paraître nouveau, moi c'est mon hypothèse, c'est plutôt les violences liées aux économies criminelles. C'est-à-dire que l'arrivée des drogues, l'explosion du marché de la consommation, à partir des années 90, les choses se sont professionnalisées. Et là, on a vu des modifications au niveau des règlements de compte liées aux économies criminelles, mais pas tant à ces rivalités de quartier qui sont un phénomène cyclique. Ça monte, ça vient et ça repart. La différence aujourd'hui, c'est qu'il y a des alertes dans toutes les rédactions. Et dès qu'il y a un adolescent qui est tué par un autre adolescent, il y a une montée en épingle. C'est quelque chose qui est politisé au niveau national, donc on en parle énormément. Ouais.
Aujourd'hui, on associe évidemment les bandes rivales au rap. Mais à l'époque où Cyril était dans une bande, l'idole des jeunes s'appelait Elvis Presley. Voici Blue Suede Shoes sur France Inter. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but no, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Lock it. For the money, two for the show, three to get ready, now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Le sociologue Marwan Mohamed est notre invité cet après-midi pour zoomer sur le phénomène antédiluvien des bandes rivales qu'on nous présente dans certains médias comme une nouveauté inquiétante, signe de l'apocalypse à venir. On a appelé cette émission Bandes rivales. Dans le titre de votre livre, Marwan, vous parlez d'embrouille. Dans les médias, côté gouvernement, on entend plutôt le terme de rixe. Quel terme vous semble le plus adéquat pour parler des violences entre groupes rivaux?
Une rixe, c'est une querelle entre différentes personnes dans l'espace public. Une querelle violente. Et la notion de rixe, elle est intéressante parce que c'est une notion qui est une notion latine. Pourquoi ? Mais parce que la violence est un mode de régulation des conflits, des contentieux dans l'espace public. Mmh. Et le premier sociologue des rixes, j'ai envie de dire, c'est Sénèque. Il a distingué les formes de rixe en fonction des contextes à l'échelle au niveau de Rome, etc. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'il y avait une notion pour parler de celui qui était tout le temps dans les rixes, c'était le rixator. Si on devait traduire la notion de rixator, ouais, qui a disparu aujourd'hui, ce serait le mec à embrouille. pour aller très très vite. Ouais. Donc le mec à bagarre, celui qui cherche, ouais, le fort en gueule, etc. Donc là, mais la rixe aujourd'hui, telle qu'elle est utilisée, c'est une notion qui est polysémique, c'est une notion du fait divers. Et en fait, on utilise le mot rixe pour parler d'une bagarre entre supporters à la sortie d'un stade, d'une bagarre après à une fête foraine, à un mariage. Et en fait, on utilise le mot rixe pour parler de violences collectives qui ont des finalités et des ressorts très différents. La notion d'embrouille, elle m'intéresse davantage. Pourquoi ? Parce qu'on regarde la conflictualité, on regarde son histoire, on regarde la profondeur. Et en fait, je me suis rendu compte que des jeunes s'affirment par l'embrouille. D'où cette phrase dans mon livre, je m'embrouille donc je suis, c'est-à-dire je suis quelqu'un, je deviens quelqu'un à travers l'embrouille, et je m'embrouille donc je suis au verbe suivre, c'est-à-dire il y a aussi cette notion de mimétisme, de solidarité qui est en jeu.
Évidemment, parce que je vous écoute et je me dis, on est choqués, nous, petits bourgeois, on peut le dire, qui vivons des vies tranquilles par la violence parfois des jeunes en banlieue, entre autres, parce que ça arrive ailleurs aussi, mais il y a cette notion de s'affirmer, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose pour exister, donc il faut bien s'affirmer dans quelque chose, et malheureusement, ce qui est à portée de main, c'est souvent la violence, en tout cas l'embrouille.
Il y a des régularités. Moi, la question que je me suis posée, c'est, en fait, qui participe à ces embrouilles? Qui on retrouve dans les bagarres? Est-ce qu'ils ressemblent à tout le monde? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui les distingue? Il y a des choses qui les distinguent. C'est ça, les régularités sociologiques. La première des choses qui les distinguent, c'est qu'ils vivent très souvent dans les quartiers populaires où il y a une tradition de l'embrouille. Donc, ils en héritent. Avant même de naître, il y a des embrouilles.
Il faut
dans
faire
leur
comme les grands. Et puis, venger d'autres embrouilles c'est ça. Qui ont précédé.
Ils sont socialisés à l'embrouille. Au virilisme, à ces formes de masculinité, etc. Donc, ils sont socialisés à ça. Deuxième critère extrêmement important, c'est qu'ils sont moins bons à l'école que la moyenne. Ceux qui participent à ces rivalités. Moins bon à l'école, en sachant que la scolarité, la réussite scolaire, c'est quand même le mode d'affirmation numéro un pour devenir quelqu'un, accéder à la reconnaissance des adultes, etc. Troisième critère, il y a cette idée de la construction des virilités. Ils adhèrent à une forme de virilisme qui est hégémonique dans la rue. Il n'est pas partout dans le quartier, il n'est pas forcément dans la famille ou auprès du petit ami ou la petite amie du conjoint, mais dans la rue, c'est une forme de loyauté à ces normes-là de virilisme. Donc ce qui se passe, c'est un mécanisme de compensation. Comment devenir quelqu'un quand on a raté l'école et qu'on n'est pas doué en sport et dans la culture? Qu'est-ce qui est disponible comme mode de comportement pour accéder à une forme de réputation, de prestige, de reconnaissance, etc. C'est là que la rue et les bandes offrent des solutions qui sont attirantes.
Mais est-ce qu'on peut quitter une bande ou, comme vous dites, c'est une forme d'hérédité, en fait?
Alors, bien sûr que la plupart sortent des bandes. J'ai aussi travaillé là-dessus, j'en ai écrit un livre qui s'appelle Les sorties de délinquance. Oui, la plupart des jeunes sortent des bandes. Et en fait, tous les jeunes que j'ai interrogés, moi, dans les années 90, surtout les années 2000, fin des 90, les années 2000 et un peu après, la plupart sont rangés aujourd'hui. C'est-à-dire les incasables, ceux qui insupportaient tout le monde, sont quasiment tous rangés aujourd'hui.
Donc c'est générationnel d'une certaine façon.
Oui, il y a quelque chose de la reproduction de ces modes de comportement-là, qu'on n'arrive pas à bloquer, qu'on n'arrive pas à stopper, mais c'est juste une étape de leur vie. C'est une séquence de leur vie.
Vous parlez de virilité, les bandes, elles sont que masculines? Les embrouilles, c'est que masculin?
Alors, je parle de virilité, c'est ça qui est important. C'est que les bandes de jeunes ne sont pas que masculines, mais les normes de virilité, notamment le virilisme, est hégémonique dans les bandes, même quand il est approprié par des jeunes filles. C'est-à-dire qu'on associe et on réduit la virilité à la masculinité. Mais en fait, il y a des filles viriles. Il y a des féminités populaires qui font la promotion de la virilité. Il y a même des gens qui ne sont pas de milieu populaire qui sont virils. Des femmes, une femme qui fait de la boxe et a une part de virilité et s'engage dans une activité virile. Donc il faut distinguer les deux, à mon avis, c'est extrêmement important. Et des jeunes filles adhèrent à ces normes virilistes, les soutiennent, les promeuvent et parfois participent elles-mêmes à la vie des bandes.
On a dit que parfois c'est un phénomène qui touchait les très jeunes. À partir de quel âge, en moyenne, on entre dans une bande en France aujourd'hui, en 2024?
Alors, entrer dans une bande, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très institutionnalisé. Oui, non, mais en fait, c'est des groupes de copains, c'est très poreux, les frontières, il n'y a pas cette notion de membre comme on peut voir aux États-Unis, où on est gang member, mandan gang ou affilié à un gang, etc. C'est pas du tout le cas ici. C'est des groupes de copains avant tout. Ils ne se pensent pas comme une bande, une institution. Mais en gros, les premières bêtises en bande, c'est 13, des fois un peu plus tôt, mais en moyenne, c'est 13, 14 ans. Et puis ça monte en puissance jusqu'à 18 ans, ça stagne et ça décroît. Et c'est des choses qu'on revoit un petit peu partout. Et par rapport à la fin des années 50, ce qui est frappant, c'est pas tant le rajeunissement, c'est le vieillissement.
Oui, ça dure plus longtemps.
Exactement, parce qu'on devient adulte plus tard.
Tenez Quentin, avant qu'on passe à votre micro-trottoir, j'aimerais partager avec vous un joli message que j'ai reçu hier. Vous savez, ce week-end, j'étais à Nice pour encourager mon épouse qui courait le 10 km. J'étais donc posté au bord de la route avec ma fille de 2 ans sur les épaules, d'où cet adorable message d'un de nos auditeurs nommé Laurent Cantazzaro, qui me dit « Oh, je vous ai vu hier en courant, d'ailleurs, j'ai pas bien reconnu, c'était votre fils ou Quentin sur vos épaules ?» Alors, cher Laurent, c'était ma fille. Quentin est encore évidemment trop jeune pour monter sur mes épaules, il aurait le vertige.
Surtout, j'irai jamais en week-end avec vous.
Comment ça?
Faudrait que je sois invité.
Oh, je vous invite souvent, vous venez jamais. Alors Quentin, vous êtes allé aujourd'hui, évidemment, Porte de la Chapelle pour ce micro-trottoir.
Je suis dans le métro, sur la ligne 12, et je m'arrête à Porte de la Chapelle, quartier en pleine évolution grâce aux travaux des JO et à l'arrivée d'un stade à l'architecture moderne. Alors qu'elle marche sur la piste cyclable, je rencontre Clara, 23 ans, licence pro, management et gestion des entreprises. Elle sort une oreille de son casque connecté.
Les bandes rivales, dans les quartiers? On va dire c'est un peu plus territorial, on va dire. En gros, tu es dans le quartier, tu vas dans un autre, tu dépasses un autre, c'est pas bien. Ou en gros, des fois, c'est juste un regard. Tu croises quelqu'un, tu le regardes mal, hop, ça...
On parle de la tension qui monte, l'escalade, les drames et le fait que ça concerne des très jeunes.
Après, pour moi, c'est un engrenage. C'est une personne, elle vient dès que t'es en groupe, tu te sens en puissance, tu te sens en force. Alors qu'en vrai, je pense pas que si t'es tout seul dans la rue, t'as envie de poignarder un autre jeune qui vient de l'autre quartier. Moi, je pense à un effet de groupe.
L'effet bande, l'effet groupe et un geste irréversible. J'arrête ces deux frères de 12 et 10 ans, survêt complet et ballon de foot orange dans les pieds.
Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi vos prénoms?
Ryan.
Wassim.
Comment ça va?
Ça va bien. On est parti au stade, on est parti s'entraîner tout seul. Et après, on a vu des personnes, on a joué avec eux.
J'ai joué contre des mecs un peu plus grands que moi.
Ah ouais. C'est quoi le score alors, final?
Ils ont gagné 3-2.
Ils me regardent et je leur demande de lire...
Les bandes rivales. Port de la Chapelle, Barbès. Il y a Saint-Denis et Port de la Chapelle.
Des fois, ça dérape un peu, ça dégénère.
Ouais, ouais. Ça dégénère beaucoup. Là, dans notre quartier, il y a quelqu'un qui est mort, il n'y a pas si longtemps que ça.
Ryan et Wassim mentionnent le drame qui s'est déroulé le 12 mars dernier à quelques centaines de mètres de l'endroit où l'on se trouve, rue Évangile, dans le 18e arrondissement. Un jeune homme de 18 ans a été tué de plusieurs coups de couteau lors d'une rixe. On poursuit notre échange, Ryan me raconte une autre rixe à laquelle il a insisté.
L'histoire c'était qu'il y avait une bande, ça a dégénéré, et il y a quelqu'un, il a sorti un pistolet, parce que l'autre, il a ramené son gang, il a tiré et après il est mort.
T'as vu quelqu'un mourir sous tes yeux toi ?
Ouais, et on n'était pas tout seul, je rentrais du collège avec plusieurs amis. Quand il a tiré, je suis parti direct, là je suis pas resté pour voir le sang, tout ça.
T'étais choqué ?
Ouais, mais après c'est parti hein. C'est comme ça maintenant, ça veut montrer qui est le plus fort.
Vous voudriez faire partie d'une bande ?
Non, je vais me faire tuer par ma mère. Hein.
Moi, je préfère me concentrer sur le foot. Ouais. Comme ça, un jour, Inch'Allah, je vais devenir joueur pro.
Est-ce qu'on peut déjà s'habituer à la mort quand on n'a que 10 ou 12 ans ? Ses deux frères souhaitent l'éviter, ils se concentrent sur le sport, le foot par exemple. Dominique a 58 ans, elle habite le quartier. Dans son immeuble, ça va, mais dans l'immeuble d'en face, c'est plus délicat, nous parlons des bandes rivales.
Dans le quartier, ça a toujours existé.
Bah, disons que maintenant, c'est ce qui est dramatique, c'est que ça finit par un coup de couteau. Moi, je pense que c'est quand même un problème de société. On a été trop laxistes pour plein de choses. Les profs ont peur, les enseignants la trouille, donc il n'y a plus d'autorité, ils se croient tout permis, mais partout. Hein. Les parents démissionnent, c'est vraiment... Je pense qu'ils ont un sentiment d'impunité, et donc...
Ma dernière rencontre débarque avec ce tissu coloré qui enveloppe sa tête, ses grands yeux derrière ses lunettes, qui se méfie un peu de mon micro. Elle a des écouteurs et elle est déjà en ligne au téléphone.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Vous êtes avec qui au téléphone ?
Attends, vous me filmez là ?
Non, c'est que du son.
D'accord, ok.
C'est qui au téléphone ?
C'est ma fille.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
Je travaille à l'école.
Je lui demande de me lire et de me dire surtout à quoi lui fait penser ce que je lui montre.
Les bandes rivales ? Aux voyous, là. Les jeunes qui s'agressent partout, là, dans les quartiers. Moi, quand je les vois arriver, je me sauve, hein. Surtout quand ils sont habillés en noir, avec leurs battes, là. Ouh là 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 là. Là, il n'y a pas longtemps, ils ont... Dans la rue, on vous l'a dit.
Il y a eu un drame.
Oui, il y a eu un drame. J'en parle et j'ai les larmes aux yeux, là. Parce que ma fille a à peu près leur âge et voilà, ça me fait mal. Moi, quand mes filles ne sont pas rentrées à 20h, je hurle. Vous êtes où ? Je suis stressée, je ne dors pas.
Et je la sens émue et touchée. Alors je lui demande comment l'hyperviolence vient se nicher dans le quotidien de cette génération. Sa fille est toujours en ligne avec elle.
Je ne sais pas, c'est les TikTok, c'est Internet, c'est la génération Snap. Et leur truc là, Hugo, c'est Hugo ? C'est quoi ? Dis-moi, dépêche-toi. Yubo, voilà, Yubo. Elle dit, j'ai mal prononcé. Voilà, mais c'est sur Yubo, là. Vous discutez, après ça devient des problèmes.
Yubo, Y-U-B-O, un réseau social destiné à des rencontres amicales pour les adolescents de 13 à 17 ans, mi-Tinder, mi-Snapchat. Le but de Yubo, c'est de se faire des groupes d'amis et peut-être des bandes. Avant de la laisser partir, elle laisse un message à ses jeunes.
Ah, la vie est courte. Ouais, c'est une perte de temps. Stop, faut qu'ils arrêtent.
Bonne journée, madame.
Merci.
Merci d'avoir pris le temps.
Donc, je vais passer sur quoi ? Vous m'avez dit
France Inter. Ouh là là. Elle s'appelle Zoom Zoom Zen.
Et ça passe à quelle heure, ça ?
Eh bien, ça passe tous les jours, entre 16h et 17h.
Allez, un peu de pub.
On aborde dans la rue tous les sujets qui parfois laissent des traces, qui parfois font du mal et même des victimes. C'est le cas dans cette rue, dans ce quartier, des bandes rivales.
Pourquoi entend-on parler tout le temps en ce moment dans les médias des bandes rivales ? On zoome sur ce phénomène avec vous, Marwan Mohamed. Alors, on entend évidemment ce que vous nous dites, que globalement, si on regarde les statistiques, la violence, elle a plutôt tendance à baisser, que c'est peut-être notre intolérance à la violence qui fait qu'on en parle plus. Mais il reste quand même des problèmes. On l'a vu, cette hyper-violence qui se niche au sein de nos villes, de nos banlieues. On a entendu quelqu'un qui parlait de sentiment d'impunité des jeunes. Est-ce qu'il y a un plus grand sentiment d'impunité des jeunes aujourd'hui que par le passé où on aurait été plus autoritaire, par exemple ?
Alors, déjà, on est de plus en plus autoritaire. C'est-à-dire qu'on est sur plusieurs décennies de votes, de lois, de durcissement des lois, de renforcement de la répression, d'augmentation de la population carcérale, d'allongement des peines, d'accélération du traitement pénal. On reste sur des années et des années de durcissement. Et en fait, ce durcissement nous avait été présenté comme la solution, la réponse à la délinquance et à la violence des mineurs. Et on est encore aujourd'hui en train de parler. En fait, c'est des réponses qui ne fonctionnent pas parce que c'est pas des réponses qui attaquent le mal à la racine. Comme j'ai dit tout à l'heure, si par exemple une politique sociale, une politique de sécurité aussi visait à réduire le vivier de jeunes qui sont en échec scolaire très précoce, et quand je vous dis très précoce, c'est que plus de la moitié de ceux que j'ai interrogés sont en difficulté dès le début du CP. Je parle même pas de décrocheurs, je parle de non-accrocheurs. C'est pas du tout la même perspective. Si on arrive à réduire ce nombre-là, j'ai parlé à des professionnels de l'éducation nationale, c'est les chiffres qui ne sont pas publiés, mais j'ai demandé, vous faites des tests nationaux au CP, dans ces quartiers politiques de la ville où j'ai été, pas tous, mais ceux où j'ai été, c'est combien d'enfants qui sont en difficulté déjà quand vous regardez les résultats au CP? 50% minimum.
Ah, c'est fou.
C'est ça le réel. Et c'est dans ce vivier-là. C'est dans ce vivier-là qu'on va retrouver une partie de la population suivie par la justice des mineurs. On a une enquête de la justice des mineurs faite dans les Bouches-du-Rhône par Daphné Bibard qui montre qu'il y a plus des deux tiers de redoublants. Et parmi ces deux tiers de redoublants, la majorité d'entre eux ont redoublé au CP. C'est-à-dire que les difficultés d'entre eux, les difficultés rencontrées par ces jeunes-là sont précoces. Et je me dis qu'une bonne politique de sécurité, ce serait de réduire le vivier.
Oui, prendre le problème à la racine.
Exactement. Là, on n'est pas dans une stratégie qui permet de réduire drastiquement, on sanctionne et tout systématiquement on sanctionne, mais on ne réduit pas drastiquement le phénomène.
Ce qui me marque, moi, c'est les jeunes que j'ai rencontrés et Ryan, 12 ans, qui a déjà vu quelqu'un mourir devant lui. Est-ce que la mort est devenue quelque chose de banal?
Non, fort heureusement que la mort est pas quelque chose de banal. Le taux d'homicide et les violences les plus graves, aujourd'hui, il y a 750 condamnations par an en moyenne, et entre 7 et 9% de mineurs qui sont condamnés. Mais il y a certains quartiers où il y a une forme de normalisation de la violence la plus grave. Je pense pas trop au quartier de Paris, où ça reste encore exceptionnel. On a parlé du 18e, on sait pas vraiment ce qui s'est passé encore dans le 18e. Pour le coup, c'est un sujet que je suis, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais à Marseille, vous avez des quartiers de Marseille où il y a des coups de feu réguliers, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10-15 ans. Et donc ça a des faits ça traumatise toute une population. C'est-à-dire les parents qui ne laissent plus leurs enfants sortir, jouer à l'extérieur. Donc les enfants restent beaucoup plus à l'intérieur, font moins de sport, sont plus sur les écrans, etc. C'est une population qui est traumatisée. Et ce que disent ces mômes, c'est quand même assez hallucinant. La phrase qui m'a frappé, c'est ça devient comme ça, cette espèce de normalisation. Il ne faut absolument pas normaliser. Il ne faut pas laisser les choses se normaliser au point de se dire que c'est un langage acceptable.
On va revenir tout à l'heure avec Manon sur la question de l'amplification par les réseaux sociaux de ces phénomènes de bandes. On continue de parler des bandes rivales avec vous, Marwan Mohamed. Le Zoom Zoom Test nous permettra de découvrir à quel point ce n'est pas un phénomène nouveau et que déjà au début du XXe siècle, les Pascal Praud de l'époque s'indignaient de la violence des bandes rivales de Ménilmontant. On se retrouve après Jay Bernard. Taxi sur Inter.
Can you please drive me to a point of no return? There's a night shop and a gas station to the right at the next turn. Please don't turn on the music, I need to empty my head. Need some road noise to reflect on everything she just said. I am not mad, I'm just sad. I've been paying attention, so you've got a point, my bad. Just give it some rest, give it some time. Well, in the end, there's nothing that fucks you harder than time. Did you give it your all? Give it your all? Five and I wanna count again, right from the start, till it makes sense in the end. On to the next town, and don't look behind, but watch out, it's just a crash waiting to happen. Oh.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Grâce à une bombe au poivre et un peu de malice, il a survécu à son reportage dans les rues adjacentes à la porte de la chapelle. Mais le pire est encore devant lui puisque Quentin va maintenant affronter Manon dans l'épreuve reine de notre émission. En même temps, il n'y en a qu'une. Oui. Le Zoom Zoom Test.
J'affronte la reine.
Oh,
merci,
joli.
Dis donc.
Un quiz en forme de piqûre de rappel aujourd'hui à tous ceux qui nous disent c'est l'ensauvagement, les bandes rivales n'ont plus de limites, Maréchal revient. Non, Cyril, le Maréchal ne reviendra pas. Ou alors il s'appellera Marion. Et surtout, on l'a dit et répété, il y a toujours eu des bandes rivales à toutes les époques. Nous sommes au 15e siècle. Et depuis que Charles Martel a repoussé les Arabes à Poitiers en 732, le royaume de France ne connaît plus aucun problème d'insécurité, ou presque. À l'époque et durant tout le Moyen-Âge, quelles sont selon vous les bandes de jeunes réputées les plus dangereuses, les plus sadiques, celles qui font trembler dans les chaumières, commettant des crimes, des viols, et parfois même, c'est recensé, des viols collectifs? Ce sont des bandes de Visigoths venus illégalement sur notre territoire? Des bandes de paysans analphabètes bourrés à l'alcool de bois? Ou des bandes de jeunes nobles qui pillent pour tuer le temps?
C'est...
Oh, c'est allé encore plus vite.
Non,
on me signale en régie que c'est Quentin. Bravo, Quentin. Magnifique, quelle réactivité. Oui, alors ça, l'éminent historien Marc Menant en parle assez peu dans sa rubrique sur CNews. Au Moyen-Âge, ceux qui terrorisent la veuve et l'orphelin, ce sont pas les Sarrasins, les Visigoths, les Ostrogoths. Ce sont des petits nobles bien de chez nous. La raison est sociologique. Hein. Je cite notre collègue de France Culture, Perrine Kervan, à qui on doit la série de podcasts Les bandes de jeunes sont éternelles. Une fois adoubé, le jeune chevalier doit se débrouiller, mais s'il est un cadet, il est souvent désargenté, alors il est en bande, de tournoi en tournoi, pour faire fortune, pille un peu les campagnes et exerce sa virilité à tort et à travers. Souvent, la différence de moyens et de statut social entre les agresseurs et les victimes fait que ces dernières renoncent à porter plainte. Mais attention, top ! Nous sommes à présent au début du XXe siècle à Paris, où, bien avant l'invention de CNews, étonnamment, le chaos règne déjà dans la capitale. En tout cas, à en croire les gazettes. Une bande en particulier inquiète. Cyril Lacarrière, qui est alors pigiste stagiaire à l'Aurore, écrit ceci. « Ils vous tuent leur homme comme les plus authentiques sauvages. À ceci près que leurs victimes ne sont pas des étrangers envahisseurs, mais leurs concitoyens français. » D'après vous, Manon, Quentin, à quelle bande fait ici référence le journaliste Henri Fouquier, certainement le nom de plume de Cyril? Les sautopathes de la glacière, les loups de la butte, ou les chevaliers du fiac?
B.
A et B. Il n'y a pas deux?
Et vous avez dit quoi, Manon?
B.
Non, bonne réponse de Quentin. C'était A et B. A et B. Oui, écoutez bien. La bande qui terrorisait Paris au début du XXe, c'était celle qui comptait dans ses rangs les sautopathes de la glacière, les loups de la butte et aussi les moucherons ou encore les chevaliers du sac et non pas les chevaliers du fiac. Ça, c'est une bande de Benjamin Tranier. Des groupes d'ados désemparés qui semaient le chaos dans la capitale et que la presse appelait plus généralement les peaux rouges, les cow-boys ou les apaches.
C'est.
Bah, c'est.
Il y a eu un film, etc.
Oui, bah surtout, j'en ai parlé dans l'intro de l'émission. En fait.
Ah oui, bah aussi.
Je me suis tiré une balle dans le pied. Bonne réponse de Manon. Oui, les Apaches. Les Apaches, ça claquait bien. Le mot et l'imaginaire qui va avec choquent le bourgeois et ça fait vendre. Et tant pis s'il faut exagérer un peu les exactions de ces jeunes marginaux. Alors, même que les années 1900 connaissent une baisse de la délinquance juvénile sur le long terme. Attention, on reste au début du 20e, mais cette fois à Londres. À la rencontre d'une bande et même d'un gang dont le nom est synonyme d'effroi pour les londoniens de l'époque, le gang des 40 Elephants. D'après vous, Manon, Quentin, quelle est la spécificité étonnante de ce gang et la raison pour laquelle il est entré dans les livres d'histoire britanniques?
Vous pouvez redire?
Les 40 Elephants. Parce qu'il est le seul gang à avoir utilisé des éléphants pour venir à bout des coffres-forts des banques, d'où ce nom, les 40 Elephants, ils en avaient 40 en plus.
C'est drôle.
À avoir pris aux riches pour donner aux pauvres, comme Robin des Bois, mais en vrai. Ou c'est le seul gang qui était composé exclusivement de femmes.
C'est.
Bah,
à moins qu'ils jouent avec des éléphants.
Bah, vraiment, je vais dire ah, mais c'est ça serait énorme.
Pour vous, ils avaient des éléphants. Ils étaient équipés d'éléphants.
Ouais, c'était bon.
Pas de béliers, mais des éléphants.
Et puis 40, c'est discret.
Non, c'était une bonne réponse de Quentin. Bah, magnifique. Quentin, sans faute, quasiment. Les 40 Elephants n'avaient pas d'éléphants, mais c'était une bande de femmes, les reines du crime dans le Londres du début du 20e. Voleuses hyper douées, hyper organisées, hyper solidaires. On parlait pas encore de sororité, mais c'était l'idée. Et pourquoi alors 40 Elephants? Eh bien, parce qu'elles étaient originaires du quartier d'Elephant and Castle, au sud de Londres, quartier également très célèbre pour...
Mais parce que vous avez vécu là-bas, Mathieu.
Les bars.
Vous avez vécu là-bas en 2002, il me semble.
Oh, c'est une bonne réponse. Victoire de Manon Marini, puisque cette question valait 4 points. Magnifique, elle renverse le quiz en dernière minute. C'est vraiment un grand moment de radio.
Je vous connais bien, Mathieu.
Vous intéressez à moi, c'est ce que j'aime chez vous.
J'ai été volé Alors que j'ai triché tout le quiz. C'est quand même incroyable.
Vous avez triché, on
m'a donné
d'accord.
toutes les réponses.
C'est pour ça, je me disais, il est étonnamment bon aujourd'hui.
Cyril, il est en train de caresser son chat avec sa main à côté, comme ça, en train de se dire.
Il savait.
Machiavel, quoi.
Marwan Mohamed est toujours avec nous pour zoomer sur le phénomène des bandes rivales. Je rappelle, Marwan, que vous êtes sociologue, auteur de Y'a Embrouille, sociologie des rivalités de quartier, publié l'an dernier chez Stock. La semaine dernière, je l'ai dit tout à l'heure, sur le mode de la galéjade, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé que tous les collégiens seront désormais scolarisés tous les jours de la semaine, entre 8h et 18h, à commencer par les quartiers prioritaires et les réseaux d'éducation prioritaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ?
Ben, c'est une bonne idée d'inventer la semi-liberté scolaire. Non mais c'est un peu le principe, si c'est la contrainte et la restriction et que c'est réservé aux jeunes des quartiers populaires. Vous savez, il y a une expression aux États-Unis qui s'appelle le school prison pipeline, avec l'idée que l'échec scolaire amène à la prison et que c'est quand même une logique très 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 marquée sociologiquement aux États-Unis. Et là, ça me fait penser quand même à cette idée-là. De réduire l'échec scolaire, c'est peut-être quand même beaucoup plus, à mon avis, efficace sur le long terme que d'enfermer tous les adolescents, de les contraindre de rester du matin au soir pour leur proposer quoi. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a déjà beaucoup d'établissements scolaires, de syndicats d'enseignants qui réclament des moyens. Il n'y a pas des enseignants partout, donc il faut trouver des professionnels encore. Et puis on réduit le budget de l'éducation. Donc je ne sais pas comment ça va se faire. Donc au-delà des effets d'annonce, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, effectivement. Et il a raison de s'en saisir, le gouvernement a raison de s'en saisir. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à baisser, malgré le durcissement des lois, pourquoi on n'arrive pas à baisser considérablement la délinquance et la violence des mineurs ? Je pense que c'est un vrai débat qu'on doit avoir, non pas avec des effets d'annonce, mais une réflexion collective qui soit plus approfondie.
Et justement, on l'entendait dans le micro-trottoir de Quentin tout à l'heure, cette maman inquiète qui parlait de la responsabilité des réseaux sociaux, de TikTok aussi, de Snapchat. Vous en pensez quoi ? Quelle est justement leur responsabilité aujourd'hui pour les jeunes ?
Alors, les réseaux sociaux n'ont pas transformé les rivalités de quartier.
Non, mais il y a beaucoup d'images de violence
mais,
quand même.
En fait, ça change beaucoup de choses. La première des choses que ça change, et je pense que ça joue sur notre sentiment d'insécurité, c'est que la violence, c'est plus de l'ordre du récit, c'est de l'ordre de l'image. Oui. Ça nous arrive dans notre poche. Totalement. La violence se rapproche. Elle se rapproche à vous, elle se rapproche à nous. Et quand vous disiez c'est insupportable c'est insupportable pour tout le monde, pas seulement pour les classes moyennes, supérieures. C'est vraiment insupportable pour tout le monde. Et en premier lieu pour les habitants qui vivent dans ces quartiers populaires. Là, ça fait deux mois que je suis chez ma mère parce que je suis en travaux chez moi. Donc je suis retourné au quartier, j'ai repris mes habitudes, je revois mes voisins, etc. Je prends la température et c'est fou la demande de sécurité, à quel point elle est extrêmement importante parce que tout le monde est un peu fatigué par rapport à ça. Donc les réseaux sociaux, c'est ça. Vous avez des conflits qui naissent en ligne aujourd'hui. Vous avez des rivalités qui sont scénarisées, l'image est la preuve de la domination d'un groupe sur l'autre. Donc l'idée, c'est de filmer et de diffuser pour digitaliser son prestige, digitaliser sa réputation. Et puis surtout, ça fait durer les rivalités, parce que l'image perdure. Vous savez, l'été dernier, je suis intervenu personnellement parce que je connaissais la mère de la victime d'un jeune dans les règlements de compte dans le Val-de-Marne. On m'a demandé d'intervenir, je suis intervenu, j'ai essayé de mettre en lien les différents professionnels de la jeunesse de Deauville, etc. Tout le monde est parvenu à calmer. Moi, j'ai fait ma part, à calmer les choses. Et finalement, il y a eu une attaque, il n'y a pas eu de vengeance. Les choses étaient en train de rentrer dans l'ordre. Et les jeunes qui ont attaqué, ils ont fait un clip de rap où ils exhibaient la sacoche volée à la victime et où ils se moquaient de lui. Et bim, c'est reparti. Là, c'est l'image en tant que telle, arrivée à rebours, qui a fait repartir ces rivalités.
Mais juste pour être clair là-dessus, parce que ça me paraît limpide quand je vous écoute, c'est qu'on stigmatise toujours les jeunes de banlieue, souvent on dit issus de l'immigration, mais les choses n'ont pas grand-chose à voir avec l'origine, c'est juste un contexte sociologique, on l'a dit. Et puis, moi je me souviens par exemple, je suis d'origine lointaine corse, en Corse il y avait des rivalités comme ça, de village en village, qui continuer d'année en année, de génération en génération. C'est juste la nature humaine, en fait, mise dans un certain contexte.
C'est pas que ça. En fait, si vous allez aujourd'hui, si on veut penser à la question de l'origine, je vais faire quelque chose de très simple. On va dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, les minoritaires sont devenus majoritaires dans beaucoup de quartiers populaires, notamment en Île-de-France. Bon, si vous voulez regarder qui sont dans le quartier populaire ceux qui réussissent le mieux à l'école, c'est des jeunes d'origine non-blanc, c'est des jeunes non-blancs, des jeunes racisés. Si vous voulez regarder les jeunes qui participent aux bandes qui posent problème, ce sera des jeunes racisés. Parce qu'ils sont majoritaires démographiquement dans beaucoup de quartiers. La question, c'est qui aujourd'hui vient des quartiers populaires, a une famille plutôt pauvre, est en échec scolaire précoce, et se retrouve dans ces logiques de bandes. Qui a ce profil-là ? Dans beaucoup de quartiers, vous avez des jeunes qui sont des descendants de l'immigration, quelle que soit la génération, les dernières vagues notamment. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. À la fin des années 50, au début des années 60, les mêmes dynamiques sociales provoquaient le même type de comportement, mais les blousons étaient noirs, les visages étaient blancs, et donc on n'en faisait pas une question raciale.
Bien sûr. Quentin ?
On parle souvent de guerre de territoire, mais de quoi on parle exactement ? J'imagine qu'il n'y a pas de territoire à défendre à proprement parler. On parle de quel territoire ?
Ah, c'est les territoires imaginaires, mais c'est les territoires de vie. C'est-à-dire que l'attachement au quartier, on le retrouve dans beaucoup de milieux sociaux, finalement. Être attaché à son quartier, que ce soit le 20e, un quartier bourgeois, machin. Attachement au quartier, il est absolument nécessaire. C'est le lieu de la vie, le lieu des échanges, le lieu des souvenirs. Donc ça, là, on a l'attachement. Dans les quartiers populaires, vous avez une forme d'attachement qui est ce que David Lepoutre appelait le nationalisme de cage d'escalier. C'est un peu un attachement guerrier au quartier. Et le quartier apporte un prestige social. Cet attachement, c'est un capital social. Un capital social qui est à défendre, mais il est surtout à défendre pour ceux qui n'ont pas d'autres choses à défendre. Et je le répète, dans d'autres milieux sociaux, comment on se valorise ? Le patrimoine, le diplôme, le métier, le prestige, etc. Dans les milieux populaires, on se valorise comment ? Par le sport, la culture, la réussite à l'école. Mais il y a une partie d'entre eux qui va se valoriser par les rivalités, par ses déviances et par ses transgressions. Il faut le regretter, mais c'est comme ça.
Marwan, juste une dernière question, parce qu'on en a parlé en antenne et c'est trop intéressant pour ne pas te poser la question. Pourquoi à Marseille, il n'y a pas de rivalité de quartier ?
Alors ça, c'est bon, j'ai une hypothèse.
Oui, c'est votre
mais
hypothèse.
Mais moi, mon hypothèse, c'est que ça renvoie à la question des identités sociales ou comment elles se construisent. À Marseille, il y a une identité communale. L'identité marseillaise,
très forte,
qui est forte, qui tempère, qui fait un peu tampon dans la construction d'identité sociale et qui réduit l'intérêt des micro-nationalismes locaux parce qu'il y a une identité collective qui rassemble davantage. Ce qu'on n'a pas en Ile-de-France, on n'est pas francilien, alors que nous, dans la région parisienne, c'est vraiment l'hyper-localisme qui fait norme.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, c'est Benjamin Tranier qui va nous rejoindre, évidemment. Mais d'abord, c'est l'heure de la veille sanitaire. Manon, il y a visiblement de la nouveauté du côté de Twitch. Ça m'intéresse forcément.
La plateforme de vidéo va lancer une nouvelle fonctionnalité fin mai, totalement pompée à TikTok, le flux de vidéos verticales où l'on peut scroller à l'infini. Et oui, après Instagram et YouTube, c'est donc au tour de Twitch de s'y mettre sur son application mobile. Alors ce flux s'appellera Discovery Feed et il se présentera sous deux formes. Sur la première, on pourra scroller des clips, donc des vidéos coupées et montées à la manière des Reels ou des vidéos TikTok. Et l'autre, où les utilisateurs pourront scroller directement les lives. Car c'est quand même la grande spécificité de Twitch, regarder des streamers en direct. Du coup, avec ce feed, on pourra scroller sur leur live, qu'on les suive ou non. Et si on veut accéder au chat et au compte de la personne, il suffira de cliquer sur le live en question et boum, on y sera. Pratique. Tous les utilisateurs de Twitch pourront être proposés dans ce feed, à condition évidemment qu'ils respectent les conditions d'utilisation de la plateforme.
Mais ça va changer beaucoup de choses ?
Disons que ça ne va pas changer le principe initial de la plateforme, mais je trouve ça intéressant que Twitch se mette à faire du TikTok, car pour le coup, contrairement à Instagram, ce n'est vraiment pas son fond de commerce. Ça montre que la plateforme cherche à se renouveler et elle en a bien besoin. Car il y a une chose que l'on peut lui reprocher, c'est son interface. Je le dis clairement, c'est quand même très moche. Il suffit d'aller sur la page d'accueil pour s'en rendre compte. Oui, je sais Mathieu, vous ne connaissez pas, mais on dirait un site vieillot des années... C'est ce que vous me disiez en antenne.
Oui, c'est vrai.
On dirait un site vieillot des années 2000. Même MySpace avait plus de style. On y trouve des lives mélangés à d'anciennes retransmissions, des extraits, bref, c'est quand même très compliqué de s'y retrouver. Sur le côté, il y a aussi une liste des streamers qui sont en live. Au-dessus, c'est indiqué « chaîne recommandée », mais on ne sait pas sur quoi se basent réellement ces recommandations. Personnellement, j'y suis allée sans être connectée sur mon compte Twitch ce week-end et on m'a aussi bien proposé RMC Sport que 4 lives League of Legends. Autant vous dire que c'est pas vraiment les contenus que je regarde. Ouais, voilà.
Mais pourquoi ils changent pas ?
Et bah pour plusieurs raisons, déjà tout simplement parce que ça marche très bien comme ça. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Je rappelle que Twitch, c'est 140 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde. En plus, la plateforme a réussi à trouver une cible de taille, les fans de jeux vidéo. Une audience donc un peu geek qui n'a pas forcément envie que Twitch attire un public beaucoup trop mainstream. C'est un peu une culture de l'entre-soi, comme s'il fallait décrypter les codes de la plateforme avant de pouvoir y accéder pleinement. Les visuels, le langage, les chats. Twitch, c'est un vrai univers à part entière. Alors qu'on s'entende bien, je dis pas non plus que c'est le site de la CIA, ça reste ludique, ça reste bien fait, mais ce côté rustique fait partie de la culture de la plateforme et du coup je ne suis pas sûre que le nouveau feed enchante réellement les utilisateurs de la première heure.
Alors pourquoi ça Manon ?
Parce que ça va attirer de nouvelles personnes, forcément, et en plus ça peut potentiellement changer la manière de faire des lives pour les streamers. Parce que maintenant, il va falloir qu'ils pensent que leurs lives vont aussi être présentés en horizontal dans ce nouveau feed, alors que le format initial est tout de même vertical. Et puis, parce qu'ils seront soumis à un algorithme qu'ils ne maîtrisent pas. C'était déjà le cas avant, mais avec le feed version TikTok, ça va être exacerbé ou du moins beaucoup plus visible. C'est toujours pareil, des vidéos seront mises en avant, d'autres pas. On ne sait pas vraiment de quelle façon les algorithmes sont faits, même si les plateformes disent que c'est en fonction de nos goûts. Je ne suis pas sûre quand même que ça va plaire et ça va sûrement créer des guéguerres et que les streamers ne vont pas être contents de la place qu'ils ont dans ces feeds comparés aux autres. Alors je comprends la démarche de Twitch, hein. Le but est de s'ouvrir et d'attirer un nouveau public, mais je trouve ça aussi dommage dommage, car la plateforme avait pour habitude justement de cultiver sa différence. Et c'était plutôt sympa. Là, on arrive à un stade où tous les réseaux sociaux deviennent identiques. Et tout ça, ça risque de manquer d'originalité.
Voilà qui est bien triste. Merci beaucoup, Manon. Lui ne manque pas, en tout cas, d'originalité. Benjamin Tranier se prépare à clore notre émission sur le phénomène des bandes rivales. Et grâce à son enquête de terrain, nous verrons que même les zones rurales ne sont pas épargnées. Témoignage édifiant en direct de Montslop en Bouloche. Juste après Eloi, Call Me sur Inter. Zoom Zoom Zen. Nous l'avons dit, nous l'avons redit, mais c'est important de le dire une troisième fois, les rixes entre bandes rivales, ça n'a rien de nouveau. Ultime preuve en est, le Tranier raconte du jour qui nous ramène des décennies en arrière.
Nous sommes le 11 juin 1983, journée mondiale de la fidélité. Un supporter enfile son maillot de Chelsea, son survêt de Dortmund et file au Vélodrome. Nous sommes donc le 11 juin 1983 à l'arrière du cinéma de quartier de Montslop en Bouloche, où deux corps sans vie sont retrouvés. Il s'agit de Pierre Bougnette et Léonard Rouston, les deux chefs des gangs rivaux de Montslop. En effet, à cette époque, deux bandes faisaient la loi dans Montslop. Le premier groupe est celui de Pierre, appelé les Solex Furax, parce qu'ils roulaient tous en meule et qu'ils fumaient des sèches sans filtre. Sur leur engin de malheur, ils avaient une conduite très dangereuse en ville et aimaient bousculer les petites vieilles en leur hurlant dessus. « Dans le cul, Mitran !» L'entièreté de la population leur souhaite une du jardin dans les petits mouchoirs. Le deuxième gang, lui, est nommé les Pento Moulax. Rapport à leurs cheveux gominés comme un gradé de la Gestapo et à leurs jeans Levi's bien serrés au niveau du sac comme un flic en civil. La spécialité des Pento Moulax, c'était d'organiser des surpattes. C'est le mot cool de l'époque pour dire surprise party. Mot encore employé par Mathieu Noël, la ringarde. Si votre daron dit sans ça, c'est porte-nawak, c'est qu'à une époque, il était chez Bran. Et qu'il a probablement déjà branché des minettes près du flipper. Oui, vos darons, les gros baiseurs, là. Ce soir d'octobre, les deux bandes rivales vont au cinéma, à la même séance, sans se concerter. Après tout, à cette époque, il n'y avait pas grand-chose à faire, à part ça et exploser des pétards bisons dans des bouses. Ils allaient tous au cinéma voir Star Wars 6. Enfin, le troisième, quoi. Enfin, celui où il dit « Au fait, Luc, c'est moi, j'ai piné ta mère, porte mal. » Un truc dans l'aile. On va dire qu'il venait d'aller voir Retour vers le futur, c'est plus simple. La mère du héros veut lui taquiner les lampions, mais en dehors de ça, c'est un super film. Pendant la séance, quelqu'un cria « Hey, la bande des Solex, vous êtes de sacrés Nasbrock !» Aïe, 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 aïe. Ce qu'il n'a pas dit là pour l'époque et aujourd'hui encore en Suisse, c'est une grave offense. Le chef des deux bandes se met d'accord pour aller en découdre derrière le ciné. On va se la donner derrière le ciné si vous êtes cap. Normalement, c'est le lieu où les ados amoureux se roulent des pelles en cachette pendant que le pédophile local se cache dans les haies. Il est facilement reconnaissable, il porte une longue gabardine, des Jacob Delafont à la place des Chicots et il s'appelle Jean-Marc. La bagarre est ridicule. Mais que voulez-vous, à l'époque, on ne pratiquait pas de sport de combat et on portait des mocassins avec des jeans. On dirait les vidéos de bagarre en Inde. Personne ne se met de patates, juste des grosses claques dans le dos. Verdict. Verdict de mort. Mais comment ? Qui ? Les enquêteurs n'investiguent pas plus que ça. Ils concluent à un règlement de compte, ignorant qu'en réalité, en plein milieu de la bagarre, le binoclard en surpoids du lycée est sorti du ciné pour leur régler leur compte et ainsi les punir d'avoir gâché son film. Les deux comparses ont la même phrase sur leur pierre tombale. Mort pour avoir gâché le film des autres, virgule, chais.
Merci beaucoup Benjamin Tranier pour cette plongée vertigineuse dans l'histoire de France. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et bien sûr en tournée planétaire le 27 avril à Servian, le 24 mai à Saint-Étienne et en janvier 2025 à Paris. Pas encore de date à Mont-Slop en Bouloche,
mais
il faut qu'ils construisent une salle plus grande. Toutes les informations sur benjamintranier.fr. Merci beaucoup Marwan Mohamed de nous avoir permis de prendre un peu de recul sur ce phénomène très médiatique des bandes rivales. Je rappelle votre dernier livre, Il y a embrouille, sociologie des rivalités de quartier. Disponible, c'est chez Stock. On n'a pas eu cette question, mais c'est une sorte de rite de passage aussi de l'âge adulte à l'âge adulte pour tous ces jeunes qui, au moment d'entrer dans une bande,
ouais, ça joue pour aussi. Une petite partie de la jeunesse, ça peut être perçu comme ça,
un déclencheur. Ouais. Merci encore Marwan Mohamed, merci à tous les amis Manon Mariani, Quentin Lui et celui qui dénonçait déjà à l'époque les excès des azous, Cyril Lacarrière. Mathias Aléon était à la technique, le retour de Ghislain Fontana, pas si bronzé que ça à Ibiza finalement, la réalisation.
C'est quand même deux semaines. Hein.
Ouais.
Oui, c'est vrai. Deux semaines à Formentera, on aurait pu imaginer mieux. Merci également à celles qui nous aident à préparer cette émission, Amel Kaldi, Fanny Léonore Crouzet et Sybille Bulou. Demain, on zoomera sur un concept dont vous avez entendu parler, mais êtes-vous sûr de comprendre de quoi il s'agit vraiment ? Moi, non. Les limites planétaires. À quoi ça sert de les définir si, en plus, la moitié sont déjà dépassées ? Réponse demain, 16h. Et jusqu'ici, tout va bien. Marine Baousson, Marie Misset, bonjour.
Bonjour Mathieu Noël. Aujourd'hui, on reçoit l'autrice et romancière Fatima Ouassak.
Son roman Rue du Passage raconte l'enfance d'une petite fille un peu pyromane, Salima, dans les années 80.
Merci, à tout de suite les filles.